Déambulation.
Ce soir, pour entendre Jacques Planchon, conservateur du musée de Die et du Diois et directeur des affaires culturelles de la ville de Die, nous dévoiler les quelques mystères de la petite vingtaine d'objets qui sont en ce moment hors les murs du musée et dans les vitrines de 20 commerçants de la rue du Fardel. Et puis avant aussi d'avoir le plaisir d'entendre quelques extraits du livre audio « Silence parlant des objets de Die, volume 2 », lu par les intervenants et aussi les participants de l'atelier du patrimoine au sensible mené par Trajet Spectacle depuis novembre dernier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais avant tout remercier Laurence de nous accueillir ce soir et puis également les financeurs de cette opération assez extravagante consistant à sortir des objets d'un musée, c'est-à-dire la ville de Die, le musée de Die, le département de la Drôme, le parc naturel régional de Gramont Musicien, Elisabeth Chabuel qui est auteure et Delphine Baralotto, comédienne et metteur en scène. Alors, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet et d'avoir le plaisir d'avoir des informations pas seulement techniques mais peut-être aussi parfois énigmatiques puisque les historiens et les scientifiques ne savent pas tout et c'est ça qui est intéressant, en tout cas ce qui nous a intéressé dans ce projet. Et d'écouter des extraits, je voulais simplement en quelques mots resituer l'opération Le musée sort de ses murs qui porte un titre extrêmement long que je ne dirai qu'une fois, que je ne répéterai pas. Ça s'appelle Le musée sort de ses murs, de vitrine muséale en devanture de magasin, dialogues imaginaires de l'histoire et du quotidien. Voilà, c'est un titre assez long, je veux dire. Ce projet a obtenu le label national Le musée sort de ses murs, décerné par le ministère de la Culture, décerné à 19 musées en France, dont 3 seulement en Auvergne-Rhône-Alpes, dont Grenoble, Saint-Étienne et Die. Les objectifs de ce projet sont assez ambitieux. On part, et c'était d'ailleurs le cahier des charges du ministère de la Culture, du constat que les musées se doivent d'aller à la rencontre des publics qui ne franchissent pas forcément leurs portes. Il y en a encore beaucoup. Il vise donc à valoriser des opérations qui conjuguent à la fois transmission, éducation populaire, et ces opérations seront réalisées conjointement sur la ville de Die et également au musée de la préhistoire de Vassieux en Vercors, ce jusqu'à novembre. Toutes les dates du détail de l'opération sont dans ce petit programme que vous avez dû voir chez les commerçants cette semaine. Donc ça se termine le 23 novembre à Vassieux et ça a commencé mardi, il n'y a pas si longtemps que ça, par la sortie d'une vingtaine de pièces du musée qui ont fait un saut dans les vitrines des commerçants de la rue du Fardel. Assez rapidement, les 5 volets de l'opération. Donc cette opération a commencé par la production d'un livre audio réalisé par un petit groupe de travail depuis novembre dernier sur uniquement 44 heures d'atelier avec 4 intervenants professionnels. C'est peu, d'autant plus que on n'est pas forcément dessinateur, on n'est pas forcément auteur et que s'inspirer de pièces muséales n'est pas chose facile. Voilà. Il y a des sujets plus simples dans la littérature que ces objets qui sont donc parfois énigmatiques. Le deuxième, alors je ne sais pas si peut-être je vais peut-être donner la parole aux intervenants pour dire quelques mots sur cette opération consistant à, pendant 6 mois, 44 heures, rédiger des textes et faire des dessins. Peut-être Marie, si tu veux très rapidement nous dire comment se déroule pendant ces 6 mois l'atelier du patrimoine au sensible, réalisation d'un livre audio. En tout cas, comment ça s'est déroulé cette année pour Renard.
Voilà, alors cette année, nous, en amont, on a extrait un certain nombre d'objets du musée. Pour leur côté intrigant et mystérieux, mais aussi un peu prosaïquement par le fait qu'ils étaient transportables. Voilà. Parce que l'idée, c'était de les sortir justement du musée. Donc on a fait un choix préalable avec Françoise et puis Jacques, et puis on a présenté les objets aux participants, mais alors avec une certaine mise en scène, parce que je trouve que c'est important de donner du mystère à ces objets qui parfois sont incompréhensibles. Donc il y en a certains que j'ai cachés sous un tissu, ou qu'on a touché à tâtons en fait pour se rendre compte de la forme ou de la matière. Il y en a qu'on a découvert dans l'obscurité complète avec une petite lampe de poche qui permettait de regarder, de voir des fragments d'objets. Donc pour moi c'était important de donner de renforcer le côté mystérieux des objets. Et puis bien sûr après on a parlé de la fonction réelle des objets, c'était important. Et puis, j'ai proposé pour chaque objet, à chaque participant, plusieurs techniques possibles pour donner vie à cet objet en art plastique, en fait, pour l'interpréter. Donc, j'ai pu donner des pastels, on a gratté sur du métal, on a perforé, on a utilisé du tissu, on a utilisé un mélange de pastels et de cire, et d'encre, je veux dire. Il y avait une quantité de. Enfin, pour chaque objet, il y avait au moins le choix entre trois techniques. Bien sûr, il y avait aussi le papier, le découpage, le dessin. Et donc, chacun s'est emparé, suivant l'objet qu'il préférait, parce que chaque séance donne le choix entre deux voire trois objets. Chacun choisissait un objet après l'avoir touché et découvert, et puis choisissait la technique qui lui paraissait la plus en symbiose avec cet objet. Voilà. Donc, il y a eu ce travail-là en amont. Et puis après, donc on est passé à l'écriture, donc peut-être Elisabeth, tu peux en dire quelques mots.
Pour l'écriture, soit des dialogues, soit des monologues. Et donc pour chaque séance, j'ai imaginé une petite situation pour mettre les objets en situation, pour déclencher l'imaginaire, pour faire parler ces objets. Et aussi, dans un premier temps, on travaillait seulement sur des mots. Et puis j'ai donné une phrase qui était un peu déclencheur de l'écriture. Et entre les mots qu'on échangeait, parce que chacun en fait écrivait ses mots et les lisait, et il y avait une sorte de partage pour que en fait chacun se nourrisse de à la fois de l'objet, de mes consignes et aussi du travail de chacun. Et on a avancé petit à petit. Donc, par exemple, pour la cervelière, moi, à chaque fois, je partais de l'objet, mais j'essayais de le resituer dans le moment présent, savoir qu'est-ce qu'une cervelière elle pourrait faire aujourd'hui. Et là, pour la cervelière, l'idée que j'avais eue, c'était de dire que est-ce que aujourd'hui, comme le cerveau est beaucoup attaqué par énormément d'ondes, etc. Est-ce que cette cervelière, elle nous serait utile ou pas? Est-ce qu'elle va nous protéger ou au contraire nous empêcher d'être libres? Et donc chacun a argumenté sur sa cervelière. Ensuite, par exemple, j'ai proposé comme mise en situation la bouilloire et le sac à archives, chacun défendant son contenu, en disant que, en argumentant que son contenu à lui ou à elle était plus important que le contenu de l'autre. Et le contenu étant l'eau et les archives, les mots, les papiers, les lettres. Et puis, je sais pas, on avançait comme ça, avec beaucoup, en improvisant beaucoup. Et je dois dire que l'atelier a très très bien fonctionné, que les participants étaient bien bien dynamiques.
Très impliqués, oui.
Et ça a donné de belles choses. Je sais pas, je
vous dis. Sur 22 séances de 2 heures seulement, à partir de données qui sont quand même au début des contraintes qui sont fortes, c'est-à-dire une sélection d'une vingtaine de pièces de la collection du musée qu'il fallait pouvoir transporter. À partir d'une autre contrainte qui est tout simplement le format final du produit fini de 21 sur 21, donc ce ne sont pas des sculptures.
Pas de relief.
Pas de relief, voilà. À partir de contraintes aussi au sein des ateliers d'écriture qui étaient fortes, contraignantes, mais en même temps qui permettent la créativité.
Et c'est des consignes.
Des consignes, oui. des consignes assez intelligentes, d'ailleurs.
Chacun pouvait les détourner comme il voulait.
Voilà, tout ça, finalement, a permis un maximum de créativité qui, ensuite, a été relayée par deux autres intervenants, puisque l'aventure n'était pas finie à ce moment-là des productions. D'une part, Élie Carton de Gramont, qui est intervenu en tant que musicien et compositeur pour faire vivre une matière sonore pour illustrer toutes ces créations d'un point de vue sonore. et puis également avec Delphine Baralotto, qui a ajouté son point de vue de metteur en scène et de comédienne pour faire en sorte que les participants de l'atelier puissent, exercice très difficile, devant un micro, lire d'une manière naturelle et fluide les textes qui ont été produits. Voilà, donc expliquez-nous comment vous avez procédé pour que tout ça semble d'un naturel parfait.
Eh bien, pour ce faire, c'est le travail de base du comédien, c'est-à-dire se familiariser d'abord avec le texte et son propre texte, ce qui n'est pas rien, parce que c'est quelquefois plus difficile de travailler ses propres écrits que des écrits extérieurs. Donc c'est l'articulation, placer la voix, trouver la respiration du texte. Et puis, une fois que tous ces côtés, j'allais dire un peu techniques, sont là, c'est d'essayer de trouver la couleur du texte, d'y trouver un peu son âme. On dit que la voix, c'est notre voix, c'est notre second visage. Et je crois que c'est vrai, il y a autant de visages que de voix. Et avec ce livre audio, vous allez découvrir l'ensemble de ces voix. Et on les a travaillées de deux façons différentes. Aujourd'hui, elles vont être un peu plus en jeu, parce que voilà, c'est un travail. Et vous les découvrirez autrement dans ce travail-là qui est fait avec Ellie en enregistrement.
C'est-à-dire, pour la partie du sonore, il y a deux aspects. D'abord, mon intervention consistait à enregistrer ces voix, c'est-à-dire, du coup j'étais un peu le photographe. J'aime bien cette idée des visages, le deuxième visage. Ben, ce deuxième visage-là, mon premier travail à moi, ça a été de les photographier au plus juste, au plus sincère et sans rien rajouter, pour avoir vraiment quelque chose de très intime. Je peux en parler comme quelque chose de très intime parce que donc, j'avais toutes les voix qui avaient été travaillées avec ce travail d'intention en lien avec les textes, et moi, à partir de ça, eh bien, j'ai fait ce face-à-face de passer du temps avec ces voix pour trouver quelle musique je mettais derrière, quelle respiration, quel rythme, quelle hauteur, comment moi je pouvais intégrer la musique sur la musique de la voix, sur ces visages, sur ces deuxièmes visages-là. Ce qui n'était pas forcément évident parce que souvent on a la bande-son et on rajoute dessus la voix au bon rythme, à la bonne hauteur. Là, le travail était inversé. Il a fallu que je trouve le rythme de ces paroles, que je trouve des rythmes communs, que je trouve des hauteurs communes et que j'aille jouer avec ça pour trouver la pulsation de ma musique, pour trouver l'harmonie de ma musique. Et comme on travaille, le travail c'est un travail sur les objets du musée et que Adi, on a la chance d'avoir un musée du quotidien, je dis la chance parce que c'est quelque chose aussi que je trouve, c'est un musée, c'est une autre forme de musée. Et du coup, mon parti pris ça a été de travailler aussi à partir d'objets sonores, c'est-à-dire que j'ai demandé aux participants d'amener chacun un objet qui sonne d'une façon particulière, voilà, d'un objet pour lequel la sonorité avait quelque chose qui leur plaisait. On a pris ces objets-là, cette fois-ci c'est eux qui ont fait un travail d'enregistrement, ils ont enregistré les objets, et moi j'ai ramené ça avec moi, dans ma malle, et je me suis servi d'une part des visages et de l'autre côté de ces sons-là. J'ai choisi ces sons, je les ai accordés, et ensuite, grâce à l'ordinateur, j'ai composé toutes les musiques uniquement à partir des sons enregistrés par les participants, choisis et enregistrés par les participants. C'est-à-dire que si à un moment il y a un son de contrebasse, c'est pas du tout un son de contrebasse, c'est qu'un des participants a pris un élastique et a enregistré un élastique tendu. Voilà, je vous laisse jouer au jeu des devinettes si vous avez envie. Tiens, qu'est-ce qui peut avoir généré ce son-là ou ce son-ci? Quel objet? Si vous me croisez dans la rue, vous pouvez me demander, mais le son là, c'est... Je serais ravi que quelqu'un vienne en disant, mais là je me pose vraiment la question, c'est quoi ça? Voilà. Donc je vous laisse découvrir ça, vous allez en entendre un petit extrait ce soir. Et en attendant, plongeons dans les visages. Je pense que c'est ça.
Oui, alors donc après ce travail extrêmement créatif qui fait travailler plusieurs disciplines de manière croisée et entrelacée, ce qui n'est pas simple. On arrive à la période du deuxième volet de cette opération, le musée sort de ses murs, qui est extrêmement direct puisque voilà, une vingtaine de pièces sont dans les vitrines jusqu'au 22 septembre, uniquement dans la rue Fardel, pour recréer les conditions de partage et de découverte de ces objets. Nous avons conçu avec le musée et Marie Pouillaud un petit parcours jeu qui est assez facile d'accès, ça s'adresse à des néophytes aussi, hein, pas forcément des experts, donc qui sera disponible chez les commerçants, mais également à l'Office du Tourisme et au musée. Et puis pour les perfectionnistes qui veulent savoir s'ils ont tout juste, les réponses seront disponibles au musée. Voilà. On a posé aussi à côté des objets dans les vitrines des petits cartels explicatifs. Mais vous aurez le dessous des cartes qui sont parfois assez croustillants par Jacques tout de suite, qu'on n'a pas forcément mis dessus. Ces cartels comportent deux QR codes qu'on peut flasher avec un smartphone ou une tablette qui permet d'avoir sans réseau le texte pour le lire plus tard à la maison. Et puis avec du réseau, le texte mis en musique par Ellie pour le réécouter plus tard. Ce qui est intéressant dans cette expérience, mais c'est à Jacques d'abord de prendre la parole, je donnerai peut-être mon point de vue personnel tout à l'heure, c'est que pour un conservateur d'un musée, c'est quand même pas si simple de se dessaisir de son rôle de conservateur qui conserve pour sortir comme ça des pièces qui sont quand même assez anciennes, hein, dans la rue. Voilà, donc je voulais avoir son point de vue sur cette opération qui est assez osée finalement. Il y a aussi le ministère de la Culture qui fait des opérations qui s'appellent Oser Musée, et là c'est vraiment Oser Musée. Voilà, donc si tu peux, Jacques, nous en dire deux mots sur ce parti pris et à quoi ça sert tout ça au fond.
Alors le but de la manœuvre, évidemment, c'est pour pallier à ce problème des gens qui n'osent pas franchir la porte d'un musée, qui considèrent que c'est pas pour eux, pour des raisons qui m'échappent, qui considèrent que c'est pas leur truc, qu'ils vont rien y comprendre, etc. Surtout, comme l'a dit Élise, parce que c'est un musée du quotidien. Le musée de Die, j'espère que vous l'avez visité, vous avez pu vous en rendre compte, c'est pas le musée du Louvre. On n'a pas de pièces exceptionnelles, on n'est pas dans l'exception. On est dans des objets qui ont été fabriqués sur place, qui ont servi sur place, qui ont en général été cassés sur place aussi, et qu'on a récoltés sur place. Donc l'importance de ce musée, c'est le musée du surplace, justement. Et donc pour avancer un petit peu dans cette idée du surplace, j'ai une bonne idée, on fait sortir les objets du musée. C'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas rentrer ou qui ne peuvent pas rentrer, ils n'ont pas besoin de rentrer au musée, ils ont les objets sur place. Et on les réintègre aussi dans le quotidien des gens. Alors peut-être pour s'apercevoir qu'en 2000 ans, les choses ont changé. C'est pas une nouveauté, mais voilà, ça permet de le voir. Ça permet de voir aussi qu'il y a eu une évolution dans la société. Ça permet de voir que voilà, il y avait d'autres modes de vie, d'autres types de façons d'habiter la ville. Et puis aussi pour voir que rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Et ce qui a été conçu et utilisé par des êtres humains il y a 2500 ans ou 1500 ans, finalement, c'est pas si éloigné que ça de ce qu'on pourrait faire ou utiliser à l'heure actuelle. Donc il y a ce double côté de différence et de relation directe qui peut être mis en valeur dans les vitrines de magasins. Alors après, il y a un petit jeu aussi avec un minimum d'humour pour essayer de mettre dans des magasins des objets qui ont un rapport avec ce qui est vendu dans le magasin, ou au contraire, de créer le contraste. Ça, je vous laisse le plaisir de la découverte avec ou sans livret-jeu, mais en faisant les boutiques de la rue du Fardel. Ils sont quand même faciles à repérer. À chaque fois, il y a le petit cartel avec les flashcodes pour vous aider. Donc, généralement, quand vous avez le cartel, l'objet n'est pas très loin. Et puis, ça donne des indications. Voilà. Mais le but, c'était de faire sortir les objets que des gens n'auraient pas l'idée d'aller voir dans un musée. Deuxième objectif, et je vais arrêter là-dessus, parce que sinon, je vais être trop... Deuxième objectif, c'est aussi de désacraliser ces objets. Comme je vous le disais, on n'est pas au Louvre. On n'est pas au musée des Antiquités Nationales, on n'est pas dans un musée d'exceptionnel. Et du coup, ces objets, c'est vrai que leur ancienneté et le fait qu'ils aient survécu au temps aussi, parce qu'ils n'ont pas été réduits en poudre, en gros, c'est ça qui les rend intéressants, parce qu'il y a encore quelque chose à montrer. Ces objets ont survécu et c'est ce qui les rend spéciaux. Mais en même temps, c'est quand même des objets du quotidien. Et donc, refaire sortir des objets du quotidien, parce qu'on les redécouvre dans la ville, ça a aussi ce côté intéressant qui permet de les désacraliser. Ils ne sont plus dans une vitrine de musée où on se dit « Oh là là, ça a dû être très important à l'époque. » Ben non, une cruche à l'époque romaine, c'est une cruche. Donc si on la sort du musée, ben elle reprend sa place de cruche. Et après tout, c'est normal, puisque c'est une cruche, c'est une poterie, c'est un truc, on met un liquide dedans et puis on le verse quand on a envie d'en boire. Ça n'a rien d'exceptionnel, c'est un objet du quotidien. Dans sa vitrine au musée, on va se dire « Oh, c'est génial !» Dans une vitrine de magasin, on va se souvenir que nos ancêtres avaient une façon d'utiliser les objets qui n'est pas si éloignée de la nôtre. Et finalement, ça l'a réintroduit dans notre quotidien. Et j'arrête là-dessus.
Autre volet de cette opération, le musée sort de ses murs, samedi 15 septembre à l'ESCDD. Pour donner vie cette fois-ci de façon spectaculaire et onirique à ces objets et à leurs illustrations graphiques par la production du livre audio, une création mêlant différentes disciplines sera proposée. Donc le spectacle sera intitulé « Nous, objets immobiles », qui reprend un texte qui figure en quatrième de couverture du livre audio. Donc c'est une création qui, donc le spectacle est évidemment gratuit, samedi 15, une mise en lumière de Véronique Bouga qui est là, une création sonore, composition d'Élie Carton de Gramont, et puis un danseur, chorégraphe qui s'appelle Jérôme Dorso. Voilà, donc trois artistes vont contribuer à mettre en lumière, en mouvement et en musique ces objets samedi. C'est un exercice qui n'est pas simple. C'est un sujet qui n'est pas évident puisque ce ne sont pas des hommes avec des émotions mais des objets qu'il va falloir faire vivre. Voilà, donc si Véro, tu veux nous en dire quelques plus, je sais que vous sortez d'un filage, vous êtes fatigué, vous êtes dedans, mais c'est quand même assez énigmatique, c'est pas un sujet facile. Voilà, si tu pouvais nous dire deux mots de la façon dont vous avez travaillé.
C'est un sujet très inspirant, hein, c'est pas que des contraintes et des choses pas faciles. Déjà partir de la thématique d'objets qui sont statiques en travaillant avec un danseur, bah déjà ça ouvre des choses très différentes parce que le travail du corps ouvre sur plein d'autres choses. On a beaucoup connecté nos manières de travailler à Élie, Jérôme et moi sur voilà, comment mettre en lumière, comment mettre en mouvement, comment révéler le son de ces objets. La création n'est pas une illustration du livre audio ni une reproduction des objets qui sont dans les vitrines. Voilà, on vous invite à venir. On s'est beaucoup inspiré, j'insiste là-dessus, parce que voilà, ça a été une très forte source d'inspiration pour nous trois, pour cette création. Et je suis un peu plein dedans, donc j'ai du mal à en parler en fait. Vas-y, Élie.
En fait, on travaille tous les trois sur ces notions de matière. Et du coup, autant dans la matière sonore, dans la matière lumineuse ou dans la matière corporelle, gestuelle, c'est les objets qui nous ont inspirés là-dedans. Et c'est aussi le concept de musée. Le musée qui va justement, comme tu disais Jacques, sacraliser un objet par une scénographie. Et le dimanche, peut-être que le conservateur va déplacer ça, que quelqu'un va passer l'aspirateur. Et tout d'un coup, on est le lieu, le musée qui crée le sacré. Peut-être qu'il y a un moment où il y a les coulisses du musée. Et voilà, on a aimé travailler sur ce qu'on montrait et ce qu'on ne montrait pas. Mais effectivement, c'est difficile d'en parler. On est en plein dedans. On ne peut que vous inviter à venir.
On vous invite à venir découvrir notre musée, c'est notre parti pris à nous, notre vision. Ça commence en bas de l'escalier et après c'est un voyage qui peut durer, on espère même après le spectacle.
Des résonances. Donc c'est samedi à l'ESCDD à 15h et puis un deuxième passage à 18h et ça démarre d'en bas depuis la cage des escaliers. Dernier volet de cette opération, le musée sort de ses murs, qui se fait avec l'accompagnement du parc naturel régional du Vercors et en partenariat également avec le musée de la préhistoire de Vassieux. Les 25 et 26 octobre, deux ateliers du patrimoine au sensible menés par Marie Pouillot et par Elisabeth Chabuel seront proposés dans cet endroit extrêmement agréable où on est extrêmement bien accueillis. Deux ateliers pour se mettre à l'expression plastique et à l'écriture. Ces deux ateliers, ces deux jours-là, seront complètement gratuits. Et ce sera l'occasion de construire ensuite, le 23 novembre, toujours au musée de la préhistoire de Vassieux, une exposition commune qui réuniront les créations originales des participants de l'atelier de Die et de Vassieux. Cette expo commune sera suivie ensuite d'une table ronde qui ne sera pas réservée qu'aux experts parce que la médiation culturelle, finalement, ça concerne tout le monde et qui permettra d'échanger sur les nouvelles techniques, qui ne sont pas forcément nouvelles d'ailleurs, de médiation culturelle pour faire en sorte de démocratiser la culture et notamment la question patrimoniale qui est un objet culturel encore plus compliqué que le spectacle vivant. Avant d'écouter des petits extraits, textes lus en direct, et ça nous fait bien plaisir parce que nous on les a jamais entendus en direct, on les a travaillés plus tard, mais voilà. Peut-être que Jacques pourrait nous donner des petites infos scientifiques sur les objets en question qu'on va reconnaître dans les textes, quelques pistes pour qu'on situe un peu leurs conditions de trouvaille, parce que même si en effet l'objectif de l'opération c'est de désacraliser, il y a notamment pour cette bouilloire qui a passé du temps sous terre et qui est ressortie absolument intacte, quand même quelque chose qui la remet dans l'ordre du sacré. Mais ça, c'est mon point de vue personnel, parce que c'est quand même un petit miracle qu'elle ait été découverte d'une manière aussi étrange et qu'elle ait été absolument sauvegardée. Voilà, donc des petites pistes sur les conditions de leur trouvaille, leurs usages qui nous rapprochent d'eux, puisqu'on a la boîte à phare, finalement, on s'en sert toujours aujourd'hui. Et puis aussi, ce qui nous permettra, et ça c'est quand même aussi de la pédagogie, parce qu'on peut être un peu largué, de restituer ces objets dans leurs époques, ce qui n'est pas facile. Donc on va peut-être commencer par ensuite une petite lecture sur le texte du sac à archives et de la bouilloire romaine. Donc si sur ces deux objets, tu pouvais nous dire quelques mots pour qu'on puisse situer les choses, ce serait très bien.
J'ai envie d'en profiter pour vous montrer les représentations plastiques de ces deux objets-là.
Alors très très rapidement, un sac à archives, c'est un sac toile de jute dans lequel on met les archives papier. Alors ça dure jusqu'au XVIIIe siècle, c'est un phénomène médiéval au départ, mais on va continuer ça jusqu'au XVIIIe. Et ça permet d'accrocher les sacs aux solives du plafond de façon à ce que les rats n'y montent pas. Et donc ça permet de conserver les archives en fait. Alors le revers de la médaille, c'est que ça brûle super bien, surtout quand c'est au plafond. Donc voilà, il y a les deux côtés de la médaille pour les sacs à archives. Donc il y en a un qui est exposé en effet. L'autre, c'est la bouilloire. Alors, cette bouilloire romaine, elle a quelque chose d'en effet assez miraculeux, puisqu'elle s'est conservée presque intacte. Elle est ressortie lors de travaux de terrassement en bordure d'une route, tels travaux de talutage. Et donc, c'est une collègue qui est archéologue, donc a un peu l'œil quand même, averti, et qui passait en voiture, pas très vite, parce que c'était une zone de travaux, et elle a vu quelque chose déborder, donc elle s'est arrêtée, elle a été grattée avec sa petite truelle, et elle a sorti donc un vase miraculeusement conservé entier, alors que la pelle mécanique venait de racler le talus devant. On n'a pas d'autres contextes de découverte, on suppose qu'il s'agit d'une tombe, parce que généralement les objets sont des objets qui ont été mis dans les tombes, sinon les objets entiers on ne les laisse pas dans la nature, on les casse ou on part avec, dans une tombe on les abandonne entiers. Donc sans doute une tombe, mais on n'en sait pas plus. Mais c'est vrai que ces conditions de conservation sont assez exceptionnelles, ce qui sacralise un peu l'objet, sans plus, quand même.
Sans plus. Bon. Donc on va écouter un texte qui est un texte dialogué, faut le faire, hein, faire parler un sac à archives et une bouilloire romaine. C'est pas un exercice facile. Donc c'est un texte qui s'intitule « Tout est affaire de contenu » qui a été écrit par Cathy et qui va être lu là tout de suite par Cathy et Isabelle.
« Tout est affaire de contenu. » Sac à archives, je coulais des jours heureux au musée, protégé, bien au sec. Et tous ces travaux d'écriture conservés, transmissibles. Puis, survint l'impensable, l'arrivée de cette cruche, tout en rondeur, en innocence apparente, laissant échapper de ses entrailles une moiteur ancienne, présage de moisissure calamiteuse. Mais courage, ne pas s'en laisser compter. Quelle importance évoques-tu, vulgaire objet du quotidien, pour sans vergogne venir me côtoyer et attenter à la sécurité de mon précieux contenu, mémoire des hommes, du règlement de leurs conflits?
Prétention, impudence, sans moi, pas de réserve d'eau, pas d'eau, pas de vie, pas de vie, pas de mémoire. Et puis de quelle mémoire te trouves-tu légitime? Celle d'un propriétaire terrien ou de tout autre cupide? Ma source à moi vagabonde, traverse les terres, tombe du ciel, peut se rassembler, se disperser. La contenir n'est pas si simple, et la partager reste vitale.
Préoccupation ô combien terre à terre. Sur les parchemins coulent les mots, sous les mots coulent les idées. Elles aussi voyagent dans l'espace et le temps, pour inventer le fleuve humanité, bien au-delà de la survie, la vie. Et si mon contenu témoigne d'une bien triste époque, il n'en reste pas moins essentiel pour rêver l'avenir.
Alors, si tel est ton pouvoir, de faire de nos rêves notre avenir, je pourrais te protéger du feu meurtrier des hommes, et toi, préserver le secret de mon existence, alliance de la terre la plus fine, d'une eau épurée, et des flammes les plus ardentes. Merci.
Voilà, donc les objets parlent, et dans les possibilités d'écriture, je crois qu'il y avait la possibilité de les faire parler à l'époque de leur trouvaille, à l'époque d'aujourd'hui derrière leur vitrine dans le musée, et à l'époque de leurs usages encore plus lointaines. C'était ouvert, je crois, hein. Donc ils se parlaient, alors qu'ils ne sont pas tout à fait de la même époque. Tout est possible. Un autre texte peut-être qui concerne un chapiteau de la fin du Moyen-Âge. Bon, alors on la trouve là chez la fée Clochette, mais Jacques, si tu pouvais nous dire à quoi ça servait, est-ce que ça c'était censé décorer, ça nous éclairerait un peu avant d'entendre le joli petit texte d'Isabelle.
Alors c'est vrai que le dessin est difficilement interprétable quand on n'a pas vu l'objet. Mais en fait, il est très directement inspiré, en effet, d'un chapiteau médiéval. Donc un chapiteau, pour ceux qui ont oublié, c'est le petit machin qu'il y a au sommet d'une colonne. Et comme le chapiteau a à peu près cette hauteur-là, quand il était complet, ça veut dire qu'il devait être à peu près à celle du sol, d'ailleurs. Grosso modo, la colonnette ne devait pas être immense. Et d'après ses dimensions, on peut supposer soit qu'il s'agissait d'un chapiteau du cloître de la cathédrale, qui a été démoli par les protestants en 1582, soit d'un chapiteau d'une maison noble, du 15e ou 16e siècle, plutôt du 15e d'ailleurs, quelque part d'Andy. C'est-à-dire le chapiteau de quelqu'un qui avait les moyens de se payer des colonnes. C'est pas donné à tout le monde. Et puis évidemment, quelles que soient les raisons qui ont poussé à ça, le bâtiment a été détruit, le chapiteau a subi quand même quelques outrages, puisqu'il en manque des morceaux. Et c'est vrai que quand on le regarde à l'heure actuelle, ça fait plutôt penser à ça. Ce que je trouve assez drôle, d'ailleurs. Mais je peux vous assurer qu'il s'agit quand même d'un chapiteau anglais qui vient de quelque part d'Andy.
On écoute le petit texte qui a été créé et qui va être lu par Isabelle, qui s'appelle Petite tête, petite bête.
Petite tête, de ton promontoire tu jubiles et batifoles. Des ailes te poussent, tu vrombis. Tu voudrais t'extraire de ta masse de pierre, prendre ton envol. Tu ris de voir dans nos regards l'étonnement de ta transformation. Tu trépignes, tu veux décoller et nous clouer le bec. Tu ne souhaites plus être vissé au sol et porter le poids du monde. Tu prends de la hauteur et nous salues de ta trompe.
Alors un autre petit texte. Bon là on peut jouer au jeu des 1000 euros parce que moi je ne savais pas que c'était que c'était masculin et non pas féminin. Donc un arribal. Un arribal. Ah oui, la boucle de ceinture. Oui, alors la boucle de ceinture qui existe encore, qui est déjà très moderne et qui n'a pas bougé. Hein, donc voilà, et puis, tu peux nous dire quel âge elle a. Elle est chez Karen. Mais d'où vient-elle?
Donc c'est un petit objet qui est à peu près de cette taille-là, qui est en bronze. Et qui d'ailleurs est en bronze pour une bonne raison, c'est qu'il date de l'âge du bronze, la fin de l'âge du bronze, début de l'âge du fer. C'est un objet qui a été trouvé en compagnie de pas mal d'autres dans ce qu'on appelle un dépôt de fondeur. C'est-à-dire un endroit où un fondeur de bronze va déposer des objets, soit neufs, soit usagés, de façon à avoir une réserve dans laquelle il va pouvoir venir piocher, soit pour vendre, soit pour refondre et refabriquer d'autres objets, puisque le bronze se fait en moulage. Alors, il y a plein d'objets différents, qui sont souvent des objets de parure, le plus souvent cassés. Celle-là est intacte, et surtout, elle a quelque chose d'exceptionnel, même si on n'est pas au Louvre. On a quand même des objets qui sont un peu sympas, puisque des boucles de ceinture comme ça, il en existe 5, peut-être 6, à ma connaissance, en Europe, toutes avec des motifs différents. Et ce sont en fait les ancêtres des boucles de ceinture à l'américaine qu'on met par-dessus, enfin qu'on met sur les ceintures, et pas nos boucles à nous qui sont creusées. C'est vraiment les boucles qu'on accroche par-dessus la ceinture. Voilà. Donc quelque chose qui a été inventé à l'âge du bronze, et pas du tout au Texas au 19e siècle, comme on voudrait nous le faire croire.
Un joli petit texte de Cathy, qui va être lu par Cathy, et qui s'appelle... Plus qu'un accessoire.
Choisi avec soin, bien ajusté, tel un bijou au reflet moiré, j'orne la ceinture de ta tunique aux plis délicatement graphiques. De bronze martelé, patiné par le temps, élytre suggéré, scarabée talisman.
Bon, arribal, on va revenir à ce fameux... qui va parler avec une boîte à phare, pas loin l'arribal, hein, elle a été trouvée à Rocoubo.
Ça servait à quoi?
Alors, une aribale, donc c'est un vase globulaire, hein, avec deux petites anses qu'on appelle delphiniformes, parce que c'est en forme de dauphin. Avec, en plus, elle a conservé ses deux petites sur-anses en fil de bronze. Ça, c'est plutôt rare. Et c'est généralement utilisé comme vase à parfum. Alors, par contre, difficile de savoir si à Rekubo, elle a été utilisée plutôt dans le cadre d'une toilette, ou dans une tombe, ou éventuellement dans le cadre de thermes. Puisque quand on sort des thermes, après avoir bien transpiré, après s'être bien raclé la peau, on va se parfumer avec de l'huile parfumée, évidemment, contenue dans ce type de vase. Alors, aribale, c'est un mot grec, puisque c'est une forme qui a été inventée par les Grecs autour du 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et là, ce modèle-là est un modèle en verre bleu, qui est d'époque romaine, c'est-à-dire plutôt fin 1er, début 2e. Et on ne connaît pas exactement le contexte de découverte, donc tous les possibles sont ouverts.
Et la boîte à phare, donc l'aribale n'est pas loin dans la rue, la boîte à phare pareil, il y a des endroits qui leur vont bien. Donc on va écouter là encore, c'est un dialogue, donc un texte d'Achille, qui est intitulé « L'aribale est le miroir sous la fontaine », lu par Delphine et Isabelle.
Tu peux me montrer l'aribale?
Et Cathy.
On est trois. La boîte à phare.
Jacques, ça a été trouvé où à
Rekubo? C'est une excellente question.
Il se trouve que Élie et moi, on habite à Rekubo, donc c'est quand même surprenant.
De toute façon, toute la vallée de la Drôme a été occupée à l'époque romaine, a été exploitée. Donc il y a des villages le long de la route, il y a des fermes, il y a des villas de riches propriétaires, il y a toutes les tombes qui sont sur le bord de la route aussi. Et ça peut venir d'à peu près n'importe quel type de contexte. Et le problème, c'est que je ne sais pas où ça a été trouvé, donc je ne peux pas en dire plus.
Un aribal trône immobile à l'angle d'une cheminée quand une main malhabile le heurte et le fait rouler jusqu'au perron d'un miroir qui s'ouvre dans un nuage de phare.
Tiens donc, un aribal. Voilà qui n'est pas courant. Veux-tu que je te reflète en syllabes, belle fiolo senteur d'argent?
Mais bien volontiers, faites, s'il vous plaît.
Eh bien, mon ami, mon cher, vous voilà ce matin dame guerrière. Vos hanches arc-boutées vous donnent audace et fierté. Votre col s'élevant dignement au-dessus de votre corps bedonnant vous rend d'une beauté grandissante. Et que dire du malin sourire qui flotte sur vos lèvres géantes? Vos traits d'esprit font rire.
Miroir, cher sujet, tu me vois flatté.
C'est bien gentil, Aribal. Mais à présent que je suis sacré féal, que peux-tu me donner contre le service que je t'ai fait?
Mais je n'ai que ma beauté.
Ta beauté? C'est ainsi? Eh bien, voici le véritable visage de ton reflet là. Tu es gros et gras, enflé comme le crapaud de la fable. Ta bouche te montre exécrable, tes oreilles détendues pendent sur ton ventre nu. Ainsi, voilà la vérité, tu es laid.
L'aribal, suffoqué, se met à pester. Menaces et jurons lui font vibrer le verre, tandis qu'ils frappent le reflet avec leur vis. Celui-ci, par prudence, se referme brusquement, et l'aribal se retrouve seul avec la rage aux dents.
Seulement après ça, on peut se demander s'il n'y aurait pas eu du poison aussi là-dedans, après le parfum.
Non.
Non.
On pourrait se demander, en général, le poison se met dans les fioles.
Plus petit et discret.
Ça coûte extrêmement cher.
On va peut-être en faire un tout dernier. C'est les pièces les plus lourdes avec le pied en marbre, donc deux lions, qu'on a remis chez les deux épiciers de la rue du Fardel. Voilà, ils se regardent. Chacun de leur côté, là. Et avant de lire le texte, Jacques, tu peux nous dire d'où ils viennent, chez de là.
Alors là, pour le coup, les lions sont véritablement enrobés de mystère, puisqu'ils font partie des collections du musée qui sont arrivées avant le premier inventaire, donc avant 1947. Autrement dit, ils sont là. Voilà. Et le seul texte, enfin la seule documentation à laquelle on peut les rattacher, c'est un article dans le journal du Diwar, je ne sais plus si c'est en 1911 ou en 1921, j'aurais dû réviser avant de venir quand même, de Louis Lyotard, qui était inspecteur d'académie, et qui dit une phrase énigmatique. Il dit que on trouve des lions dans les campagnes du Diois. donc c'est un peu difficile à comprendre. Mais on sait par ailleurs que Louis Lyotard a fait don d'un certain nombre d'objets, on sait évidemment pas lesquels, au musée de Die dans les années 10-1920. Et ces lions font probablement partie, puisque c'est la seule référence de lion à Die qu'on puisse trouver dans les textes. Voilà. Donc des lions trouvés dans les campagnes du Diois, probablement pas en train de gambader tout seul, mais sans doute en décor dans des maisons nobles, et qui ont été utilisés en effet pour le symbole qu'ils représentent. Le lion, c'est le roi des animaux, c'est la force, c'est la puissance. Et surtout sculpté par des gens qui ne devaient pas avoir vu des lions tous les jours, à une époque où la photo ou la télé ne permettaient pas de pallier la difficulté de faire du tourisme en Afrique. Donc ça les rend très énigmatiques, dans tous les sens du terme.
Lions en disgrâce.
Ils sont là. Ils sont deux. Ils parlent sous le soleil. Ils racontent des choses, des histoires. L'un est sage. L'autre semble bête. Il rit. Le sage l'observe. Il ne montre pas qu'il est en colère. Ce sont deux lions étranges, qui ne le sont pas vraiment, des lions. Ils n'y ressemblent pas, mais ils sont lions. Le sage se vexe. L'idiot rit de joie. Il est heureux de parler. De parler à quelqu'un. On l'ignore souvent, alors il rit. Il ne voit pas que le sage s'énerve. Il va rugir, lâcher sa colère sourde. Elle va surgir, bondir, tel un lion. L'idiot n'a pas écouté ce qu'a dit l'autre. Il ne sait pas que c'était grave, sérieux. Il ne sait pas, le sage est blessé. Il le regarde, un regard mauvais. Il toise son visage, on dirait un cochon. Il voudrait le lui dire, qu'il soit blessé à son tour, qu'il soit énervé. Il serait satisfait, lui. Seulement non, il ne le fait pas, car il est sage. Qu'il vaut mieux ça, qu'il soit fâché, que l'autre soit joyeux, plutôt que la haine des deux côtés, un sur deux. C'est amplement suffisant.
Je vous invite à venir découvrir nos deux lions dans notre spectacle.
Alors, on va peut-être finir par une petite minute 15 d'écoute avec l'illustration sonore d'Elie, d'un texte qui, ça tombe bien, était conclusif et rassembleur de tous ces objets, qui a été écrit par Isabelle.
Nous, objets immobiles, enfermés dans nos cages de verre et offerts au regard des curieux de passage, dévoilons des traces du passé, des modes de vie, des us et coutumes d'un autre temps, et parfois disparus, et qui, sans le savoir, vous ont imprégné au cours des siècles et jusqu'à aujourd'hui. Source d'inspiration, nous sommes encore pour vous vivants.
De la couleur d'un arrival au reflet de la boîte à phare,
du cliquetis de la clé pistolet à la parure fleurie de l'étui à poudre,
de la tête de chapiteau au pied de marbre,
de la boucle de ceinture à l'épingle d'un vêtement,
de la statue des lions à la mâchoire d'os,
du casque à la cervelière,
de la lanterne à la boule noire,
de la gare au sac d'archives et à l'antéfixe.
Tous témoins d'un quotidien.
Tous témoins d'un quotidien.
Tous témoins d'un quotidien disparu.
Tous témoins d'un quotidien
disparu. Tous témoins d'un quotidien disparu.
Tous témoins d'un quotidien disparu.
Nous revenons à la vie quand votre imaginaire y puise impressions fugaces et émotions subtiles. Comme si vous aviez vécu un instant auprès de nous, dans une autre vie. Un clin d'œil sur le passé pour vous raconter des histoires qui parlent d'aujourd'hui et qui vous ramènent aux rites qui vous construisent et vous forgent.
Voilà. Voilà, on a donc essayé assez rapidement de vous faire un petit panorama des différentes étapes de ce projet Le Musée sort de ses murs, qui permet de croiser différentes disciplines, de mobiliser des artistes et leurs univers, de désacraliser le musée, de faire en sorte qu'ils deviennent un passeur de mémoire et qu'ils s'invitent chez les commerçants. Voilà, ça nous le rend sympathique, on l'aime beaucoup, c'est tellement plus sympa que des musées sur lesquels il faut s'inscrire 5 mois à l'avance pour pouvoir avoir le droit de voir un quart d'heure la Seine à Milan par exemple. Voilà, donc c'était extrêmement sympathique de rentrer dans cette aventure et on remercie beaucoup le musée Bidi, Jacques, et puis notre élue à la culture, Marilène Moucheron, qui est là, merci.
Parce que ça continue, hein, c'est que le deuxième.
Voilà, on a des idées et l'année prochaine, on va partir sur un troisième opus. Donc, cette fois, on ne sera pas dans le musée, mais on sera dans les rues de Die. Voilà. Et on vous invite à nous rejoindre parce que cette année et l'année précédente, donc, on a réveillé un peu le musée, on l'a fait sortir. Mais cette année, on a aussi envie de réveiller les rues de Die à travers le thème des portes et des fenêtres. Voilà, donc on va partir à la cueillette de portes intrigantes qui sont fermées, entrebâillées, grandes ouvertes, qui nous révèlent des présences qui sont cachées derrière, qui peuvent s'ouvrir si on frappe un petit peu doucement. Ce sont aussi des portes qui grincent, des portes très anciennes, des portes qui parlent de la vie agricole de Die, des portes plus ostentatoires, des portes plus modestes. Voilà, donc on va partir à la rencontre des portes et des fenêtres. C'est donc du patrimoine architectural de la ville de Die qu'on va parler. Et là, on va donner vie à tout, on va écouter déjà toutes ces vies secrètes et on va leur donner vie en dessinant, en écoutant. Il y aura toute une partie de quête dans la rue. C'est-à-dire que, aussi bien Elisabeth que moi, on va commencer chacune de nos séances d'art plastique ou d'écriture par une balade dans les rues de la ville avec des prises de notes, des photos, des croquis. Des notes aussi sur l'ambiance, sur les couleurs que nous inspirent ces portes et ces fenêtres. Et puis après, on ira en atelier au musée pour approfondir le travail en art plastique avec un travail sur les ombres, avec un travail sur le personnage, avec un travail sur la présence, sur le dialogue entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, donc on va travailler sur ce thème-là et on vous invite à nous rejoindre parce que je pense que c'est une belle aventure.
Ça démarre le 7 novembre.
Le 7 novembre.
Et il n'est pas nécessaire d'être calé en ligne de fuite et archi. Voilà.
Du tout. On parlera forcément un peu d'architecture et puis surtout de perspective, mais on en parlera très discrètement, juste pour ne pas faire des choses trop maladroites. Mais on va surtout beaucoup y rêver, imaginer, superposer, émouvoir et puis faire apparaître.
Voilà, et on espère beaucoup faire, comme la restitution là ce soir, dehors, au pied des maisons, d'une manière la plus vivante possible.
Ouais. Et ce sera un mélange d'histoire, de réalité, de rêve et de légende. Voilà, tout ça va se mélanger.
Alors, ça commence le 7 novembre, mais prenez pas peur, parce que les ateliers seront dans la rue, mais après, les restitutions graphiques ne se feront pas sous la pluie, mais seront au chaud dans la salle pédagogique du musée, qui vous ouvre pour le coup aussi ses portes et ses fenêtres. Les portes pour rentrer et sortir, et les fenêtres pour avoir un peu de lumière quand même pour travailler. Et si vous avez des questions, on va peut-être faire la deuxième mi-temps à l'extérieur.
Bonne idée.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à Laurence qui nous a accueillis. Oui.
Déambulation.